Aujourd'hui, donc, nous reprenons le cycle liturgique qu'on appelle celui du temps ordinaire, qui nous concentre sur le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, hein, qui est cette rencontre du dimanche, c'est fêter la résurrection du Seigneur à chaque fois. Tous les dimanches sont une vraie Pâque. Nous réjouissons de cette résurrection, de cette mort et de ces résurrections qui nous sauvent et qui nous ouvrent le ciel. Et puis, nous cherchons à vivre selon l'Évangile, à être fidèles au Seigneur. Et c'est ainsi que nous entendons les Évangiles qui sont déroulés, qui sont lus en continu, comme on dit, chapitre après chapitre, dimanche après dimanche. Et donc là, cette année, vous le savez, nous lisons davantage l'Évangile de Marc, qui est un Évangile très court, relativement court, et qui a très peu de parties propres à son évangile, hein, qu'on ne retrouve pas dans les autres évangélistes. On considère que Marc a sans doute été le premier à écrire l'évangile. Voilà. Pourtant, dans ce chapitre 4 que nous venons d'entendre, avec ces deux paraboles sur le royaume, eh bien, ce sont des passages d'évangile qu'on ne trouve que chez Marc. On ne trouve nulle part ailleurs. On les connaît bien, je pense, hein, vous n'avez pas été surpris en entendant ces lectures, hein, sur le royaume. À quoi allons-nous comparer le royaume? Comment en parler? Donc, Jésus fait ce qu'on appelle des analogies, hein, des rapprochements, où dans tout rapprochement, dans toute analogie, il y a plus de différences que de ressemblances, mais il y a quelques points de ressemblance qui nous aident à mieux comprendre le mystère de Dieu. Hein. Et il est dit que, à la fin, hein, de ce passage, il est dit que Jésus enseignait beaucoup en parabole, il ne disait rien sans parabole, mais qu'ensuite il expliquait aux disciples. Il leur expliquait en particulier. Hein, et c'est un peu à cette même école que nous essayons de vivre, nous qui sommes, par notre baptême et notre présence ici, les disciples du Seigneur. Donc nous entendons les paraboles, nous essayons, le Seigneur nous les explique. Alors je pense que les homilies ont cet objectif d'aider, hein, mais je crois surtout à la puissance du Saint-Esprit qui éclaire nos cœurs sur la vérité des textes que nous entendons. Hein, pour chacun, les textes peuvent évoquer des choses un peu différentes, complémentaires, selon nos besoins et selon là où nous en sommes dans notre cheminement et là où est notre vocation. Donc, ces deux paraboles qui nous sont entendues nous parlent du royaume. Elles nous disent quelque chose d'important, c'est que le royaume, il va se développer et il se développe quoi qu'il arrive. Il se développe, il va même porter du fruit, hein, puisqu'il y aura des épis de blé et il y aura le grain de moutarde va devenir un arbre dans lequel pourront se réfugier tous les oiseaux du ciel. Hein, c'est un lieu de refuge. Autrement dit. Le royaume de Dieu est une promesse de paix, une promesse de bénédiction et de paix. C'est une promesse de fécondité. Il y aura des épis de blé. C'est une bonne nouvelle. Ce royaume qui se développe, c'est une bonne nouvelle. Il va réaliser, on pourra se réfugier dedans, on pourra porter du fruit. Ce royaume porte du fruit. Mais seulement, ce que nous dit Jésus, et c'est sans doute un des aspects importants des paraboles qu'il choisit, enfin de son choix, c'est que il dit la semence est semée. Alors évidemment, la semence auquel nous pensons, c'est celle de Jésus lui-même. Hein, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Donc il va mourir pour ressusciter. La résurrection est déjà le germe de cette graine qui meurt, hein, pour donner. Pour porter ensuite du fruit. Donc, c'est d'abord la mort de Jésus, la mort-résurrection de Jésus, qui est cette graine semée, invisible, il y a 2000 ans, et qui ensuite va se développer. Mais ce n'est pas que cela, puisque dans la première parabole, il est dit, parler d'un homme qui jette du grain, hein, qui sème, donc il ne sème pas qu'une semence, il en sème de multiples. Donc, on peut très bien y voir la semence que nous sommes, nous, la semence des chrétiens que nous sommes à travers notre vie donnée. Alors on pense d'abord, historiquement dans l'Église, on pensera d'abord aux martyrs. hein, qui vont donner leur vie à l'exemple de Jésus, et il y en a encore aujourd'hui. Des martyrs qui vont mourir, et alors que leurs adversaires peuvent dire « Victoire, nous avons tué ce disciple de Jésus », eh bien nous, nous savons que cette victoire n'est qu'apparente, que c'est une graine semée. Hein. Tertullien qui dira les martyrs sont semences de chrétiens. Hein, c'est-à-dire c'est vraiment cette semence qui va porter du fruit. Voilà. Et puis, mais il y a aussi nos propres vies, hein, offertes, données, hein, quelle que soit notre situation, quel que soit notre état de vie, quel que soit le cheminement, l'histoire que nous aurons, nous pouvons, de toute façon, s'il y a une chose que nous pouvons faire, c'est donner notre vie à Dieu, de lui faire confiance, de nous remettre dans les mains de Dieu. Et c'est ainsi que nous devenons une graine qui est semée et qui peut porter du fruit. Puis enfin, il y a aussi le fait de pouvoir semer par notre parole, c'est-à-dire que d'être nous-mêmes des semeurs de l'Évangile, hein, par notre parole, par notre témoignage, par notre profession de foi, par notre témoignage auprès de ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est une manière de semer dans les cœurs l'Évangile qui va germer, qui va pousser sans qu'on le sache. Et c'est de le semer dans la société aussi. Voilà. Et ce que nous dit ensuite Jésus, c'est que ça va grandir sans qu'on n'y fasse rien, et voire même sans qu'on le voit. Hein, on voit très bien dans l'image du blé, au début, ça germe et grandit, dit Jésus, il ne sait comment, donc le semeur, et finalement, petit à petit, ça va porter du fruit. Mais ce n'est pas au début. Au début, ça n'a pas de fruit. Ça fait de l'herbe au début. Hein, donc, c'est cette. Il nous dit, voilà, ça ne se voit pas. La réalité ne se voit pas. Ce qu'il faut, c'est semer. S'il faut, c'est semer, mais ensuite, ça ne se voit pas, le développement ne se voit pas. De la même manière, la moutarde, le grain de moutarde, toute petite, qui va commencer à grandir, eh bien, au début, n'est pas encore la plus grande des plantes potagères. Il faut un peu de temps pour devenir grande et pour pouvoir permettre aux oiseaux de s'y abriter. Donc, de la même manière. Et ça nous invite à une attitude qui est une attitude de patience, mais aussi d'espérance, hein, de confiance. Hein. La deuxième lecture nous parlait de confiance, faire confiance. On n'a pas tout, on ne voit pas tout, mais ce n'est pas grave, on sait que c'est obtenu. Et donc, il nous faut marcher vraiment dans l'espérance. On dit souvent que finalement, la vertu qui manque le plus, c'est l'espérance. Alors, toutes les vertus sont très liées, hein, donc on ne peut pas parler de l'espérance sans parler de la foi et de la charité. Mais cette vertu fondamentale nous manque souvent, même quand on a la foi. Hein, on peut avoir la foi et être désespéré sur la situation. Peut-être la nôtre, personnelle, de voir que finalement, je mets beaucoup de temps à me convertir et à être plus chrétien. Mais peut-être aussi sur mon entourage et peut-être aussi sur le monde, la société. Et aujourd'hui, il y a une tendance à être très négatif, en tout cas dans le milieu chrétien, et c'est très présent, je ne sais pas si c'est dans toute la société, mais être assez négatif sur la société. Hein. Et donc de ne regarder que ce qui se voit, que cette herbe qui est en train de pousser, voire de ne pas la voir pousser, et, ou bien de cette plante qui n'est pas encore très grande, et de regarder comme ça. Or, il nous faut marcher dans l'espérance, car à la fin, Jésus l'affirme, le royaume, c'est ainsi. Les grains de blé, c'est pour la fin, au moment de la moisson, donc c'est pas avant. Et puis, la plante potagère, pour qu'elle abrite les oiseaux, il faut un peu de temps. Donc il nous faut être patient et marcher dans l'espérance. L'espérance, souvent, on la confond avec un certain espoir, quelque chose d'assez, quelque part d'assez rationnel, où on dit, oui, nous avons des bonnes raisons d'espérer. Oui, l'économie redémarre, nous avons des bonnes raisons d'espérer. Voilà. Mais c'est pas de cela dont nous parlons dans l'immédiat. Nous parlons d'une vertu théologale qui a rapport à Dieu. Hein, donc, et souvent, l'espérance, on en fait une affaire trop humaine. Hein, pour nous, chrétiens, nous pouvons être dans l'espérance, non pas parce qu'il y a des bonnes raisons d'espérer, non pas parce qu'il y a des bons signes, mais simplement à cause de notre foi en Jésus, notre foi en l'œuvre de Dieu que Jésus nous promet, de ce royaume qui vient, mais qui n'est pas encore bien visible. Et donc, il nous faut rattacher notre espérance à Dieu. Et c'est parce que nous espérons, c'est-à-dire que nous sommes certains que les fruits vont se randonner, que la mort et la résurrection de Jésus n'est pas vaine. C'est parce que nous voyons ça que nous pouvons espérer dans les choses du quotidien, dans les choses même de notre société. Car nous savons que tout est dans les mains de Dieu et qu'au final, ça sera ainsi. Un arbre dans lequel les oiseaux peuvent s'abriter, des épis qui pourront être moissonnés. C'est ainsi. Alors après, nous passons des périodes, alors si on peut continuer le parallèle avec la nature, eh bien, on peut dire qu'il y a certaines périodes où il semble que le climat est excellent et la croissance de l'arbre et la croissance du blé se fait très bien. On peut penser à la période du Moyen-Âge où dans nos régions, la foi chrétienne était très très diffusée et imprégnait la vie des gens, y compris les gens les plus simples. Et même s'il a fallu toujours réévangéliser à chaque période, puisque nous, chrétiens, on ne naît pas chrétien, on le devient. Donc chaque génération doit se convertir. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on baptise les gens à chaque fois. Il y a une transmission, mais c'est surtout un renouvellement permanent. Mais en même temps, à certaines périodes, ça semblait être plus, vu de loin en tout cas, vu de chez moi, ça semblait être plus facile. Au 19e siècle, au 17e, 19e siècle, il y avait aussi tout cet élan missionnaire incroyable qui fait que dans le monde entier, l'évangile circulait. Il y avait énormément de missionnaires français, et ils étaient les plus nombreux, semblerait-il, au 19e. Et puis parmi eux, les plus nombreux des Français, c'étaient les Vendéens. Donc, morale de l'histoire, les Vendéens ont évangélisé le monde. Alors, j'exagère un peu, peut-être. D'accord, oui. Voilà, c'était juste pour vous réveiller. Mais toujours est-il qu'au 19e siècle, il y avait ce tel élan missionnaire avec des conversions massives qui fait qu'aujourd'hui, l'évangile est répandu dans le monde entier, réellement, avec des églises très vivantes dont nos aïeux ont été semés là-bas, la parole de Dieu, et elle porte vraiment du fruit. Et donc, on peut penser comme ça que, voilà, au 19e siècle, eh bien, tout était bien parti. Et le 20e siècle, alors ça va commencer déjà à la fin du 19e, le 20e siècle, eh bien, progressivement, dans nos régions tout au moins, on peut être tenté de dire, voilà. Et moi, si on prend la comparaison donc avec la nature, eh bien, on peut se dire, finalement, nous vivons un peu des intempéries, des périodes de sécheresse, comme dans toute culture. Des périodes de sécheresse, des périodes de tempête. Et donc, la moutarde pousse beaucoup moins bien, moins vite, voire même se dessèche un peu. Et ça peut un peu nous inquiéter. Mais il ne faut pas être inquiet. Le Seigneur promet que la récolte sera bonne, qu'il y aura une récolte. Donc, il nous faut avancer comme ça dans cette vertu d'espérance, en croyant que même si nous passons des moments où il y a quelques intempéries, eh bien, ce n'est pas si grave. Puisque nous savons que ça va bien finir, nous connaissons l'avenir. Voilà. Donc nous sommes invités à vivre vraiment dans l'espérance, en ancrant notre espérance en Dieu, en vivant vraiment de cette espérance en Dieu. Alors l'inverse de la vertu d'espérance, donc c'est un vice, parce que le vice c'est l'inverse de la vertu. La vertu c'est une bonne habitude, le vice c'est une mauvaise habitude. Donc les vices contraires à la vertu d'espérance, dit saint Thomas d'Aquin, c'est le désespoir qui peut habiter beaucoup de nos cœurs, beaucoup de cœurs, et la présomption. C'est-à-dire qu'en fait, on se croit parvenu, on va y arriver, on est les meilleurs, tout ça, et ça peut habiter aussi les chrétiens, les deux. Il y a parfois des chrétiens désespérés parce qu'ils disent l'évangile aujourd'hui ne résonne plus du tout dans les cœurs, on déchristianise tout, et inversement, des chrétiens qui disent « Oui, mais là, on va y arriver, c'est bon, et d'être un peu présomptueux, on est les meilleurs et on va finir par le montrer. » Alors, ça, c'est des vices contraires à la vertu d'espérance. La vertu d'espérance, c'est autre chose. C'est qu'on croit vraiment à l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui porte du fruit, c'est Dieu qui fait grandir. Et on ne cherche pas à voir les résultats immédiatement, on travaille à la vigne du Seigneur. On travaille dans les champs du Seigneur. Et finalement, nous, chrétiens, c'est notre rôle. Être dans l'espérance de cette certitude, dans l'espérance même dans les choses concrètes de la vie. Avoir un certain optimisme chrétien, qui n'est pas une naïveté. On voit très bien les problèmes, mais voilà, on sait que ce n'est pas la fin de tout. c'est pas le dernier mot, n'aura jamais le dernier mot. Et puis, donc, de travailler comme ça et de laisser et de favoriser la croissance du règne de Dieu. On peut dire que nous, chrétiens, nous sommes invités à être un peu, si on garde toujours cette image, un peu la sève de cet arbuste, de ces épis de blé. Et donc, il nous faut vivre, être une bonne sève, il nous faut vivre notre vie chrétienne, vraiment. Et c'est cela que le Seigneur demande. Là où nous sommes, dans notre état de vie, dans notre vocation. Et puis, il nous faut donc, par rapport à cette vertu d'espérance, il nous faut une autre vertu, qui est une des vertus cardinales. Donc, c'est des vertus humaines, mais il nous faut l'aide de Dieu quand même pour les faire grandir. Donc, il y a la vertu de prudence, la vertu de justice, la vertu de tempérance. Et puis, la quatrième vertu, celle qu'il nous faut demander, c'est la vertu de force. Cette vertu de force fait que nous traversons l'adversité. Je ne me découragerai jamais. Thérèse de Lisieux, elle dit que le découragement, c'est déjà de l'orgueil. C'est le péché d'orgueil. Parce qu'on compte trop sur nous. On n'est pas assez. Il nous faut travailler vigoureusement pour être des bons chrétiens et travailler à notre monde, travailler pour que notre vie puisse avancer. Mais il nous faut vraiment nous appuyer, nous enraciner en Dieu, nous appuyer en Dieu et développer cette vertu de force qui traverse l'adversité quoi qu'il arrive. C'est donc une des vertus. Voilà. Mère Teresa dira « Succès et échec n'ont aucun sens aux yeux de Dieu. » Aïe. C'est pas comme nous. « L'essentiel est que vous fassiez ce qu'il vous le demande comme il vous demande. Voilà. » Soyons à notre place, là où nous sommes, dans notre vocation. Cherchons à vivre en chrétien authentique là où nous sommes. Et donc, la vertu de force à développer et les vices contraires, les vices opposés sont la présomption, là encore, se croire, s'appuyer trop sur nos propres forces, c'est pour ça qu'on se décourage. L'ambition, donc d'être vraiment, c'est pour nous, c'est pas pour Dieu, et la vaine gloire, un peu du même genre. Voilà. Demandons donc au Seigneur de grandir, puisqu'il nous invite à par ses paraboles, d'avancer dans l'espérance vraiment, de grandir dans la vertu d'espérance, d'avoir une vraie espérance, d'être des signes, des lumières dans le monde grâce à cela, et puis de développer notre vertu de force pour pouvoir traverser toutes les tempêtes et toutes les adversités. Amen.